Bonjour, bienvenue sur UX Content Craft. Je suis Apolline, UX Writer Freelance et cofondatrice de Lorem. Lorem, c'est une école de formation à l'UX Writing et aussi un studio pour accompagner les équipes design et produit dans la conception des contenus de leur interface. Sur UX Content Craft, je pars à la rencontre d'UX Writer, de Content Designer, de Product Designer, de Product Manager et bien d'autres encore. Pour, devinez quoi ? Parler du UX Writing. Ensemble, on discute de leur parcours, de leur quotidien, de projets challengeants et de la structuration de l'expertise contenue dans leur équipe. Avant de commencer la discussion du jour, je vous invite à noter le podcast, avec une super note bien sûr, et à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée si ce n'est pas déjà fait. Maintenant, place à l'épisode. Pour ce nouvel épisode de podcast, j'ai le plaisir d'échanger avec Axel Viersac. Axel est Lead UX Writer chez PrestaShop depuis janvier 2023. Dans la plupart des entreprises, le contenu est plutôt distillé dans plusieurs équipes parmi plusieurs expertises. Il y a par exemple l'UX Writing côté produit, le copywriting côté marketing, mais aussi la rédaction SEO, la rédaction technique, le social media management, la localisation et bien d'autres encore selon la structuration des entreprises. Globalement, on a du mal à voir qui fait quoi et à quel moment. Pourtant, toutes ces expertises du contenu concourent à la création et à l'amélioration de l'expérience utilisateur. Lorsqu'il arrive chez PrestaShop, Axel décide de lancer un travail de grande envergure, restructurer le contenu, c'est-à-dire rattacher toutes ces petites îles où gravite l'expertise contenu pour définir une réelle stratégie et permettre une cohérence sur l'ensemble de l'expérience. J'ai donc demandé à Axel de nous partager ce qui a été mis en place jusqu'à aujourd'hui pour repositionner le contenu dans une stratégie plus globale. Et puisque ce travail de longue haleine est toujours en cours, il nous partage également ses prochains chantiers, les prochaines étapes pour 2024. Mais je ne vous en dis pas plus pour le moment et je laisse place à ma conversation avec Axel. Bonne écoute. Bonjour Axel.
Bonjour Apolline.
Je suis ravie de t'accueillir sur UX Content Craft. Ensemble, on va parler de la place du contenu dans une équipe, dans une entreprise telle que PrestaShop, donc qui a un enjeu hyper important et dont on va vraiment parler. Mais avant de rentrer un peu dans le vif du sujet, on va refaire un peu ton parcours et je voudrais savoir comment t'en es arrivée à l'UX Writing en premier.
Déjà, merci de me recevoir. C'est un plaisir aussi d'être l'invité aujourd'hui. Moi, c'est un parcours assez spécifique. Enfin, j'imagine que toutes les personnes qui en font de UX Writing ont un parcours qui est assez atypique. J'ai commencé par une formation en fait en philosophie. À la base, moi, j'ai un master recherche, donc rien à voir avec le digital, rien à voir avec le design, beaucoup à voir avec l'écriture. C'est ce qui a fait en fait que j'ai commencé à travailler en parallèle de mes études dans la rédaction. Donc pendant ma licence et mon master, j'écrivais. En fait, j'ai commencé à écrire beaucoup des articles de blog. À l'époque, je faisais des interviews de groupes de musique, de chanteurs, ce genre de choses. Et j'ai commencé aussi lors d'un stage en galerie d'art, à travailler en fait sur les réseaux sociaux. Donc, c'est là où j'ai mis un premier pas un petit peu sur dans le digital. J'ai commencé à explorer l'univers du digital et je me suis dit bon, il y a du digital, j'écris, les réseaux sociaux c'est marrant mais c'est pas forcément mon truc. Et en fait, j'ai commencé à regarder un petit peu plus à la rédaction web. Je me suis orienté sur ça, je suis tombé dans le SEO et puis de fil en aiguille en fait, je suis retourné un peu plus vers un aspect serviciel, on va dire, parce que du coup, j'avais eu pas mal d'expériences professionnelles qui étaient plus dans le service. Et en fait, je suis tombé sur l'UX Writing. Là, je me suis dit, bah écoute, c'est parfait. On peut écrire d'où on veut, parce que c'était aussi une volonté de ma part. Et en plus, on est au contact des gens et on est à destination des utilisateurs. Et voilà, et du coup, je suis tombé dedans, mais c'était en 2017-2018 à peu près. J'ai commencé à avoir des premières expériences en tant qu'UX Writer.
Ok. Parcours atypique, mais au final classique pour des UX writers, tu vois. En tout cas, on vient tous, je pense, et toutes de la rédaction de manière globale. Enfin, je me suis beaucoup reconnu dans ton parcours. Mais là où ça diverge, c'est qu'aujourd'hui, tu es lead VX Fighter, ce que je ne suis pas. en quoi consiste ton job assez rapidement, parce qu'on va rentrer dans le vif du sujet après.
Bien sûr. Alors, très rapidement, en fait, ça va être de l'encadrement des postes de la rédaction liée à l'expérience utilisateur, donc UX writer mais pas que. J'avais aussi il y a quelque temps un technical writer au sein de l'équipe et puis une content manager puisqu'on avait plusieurs postes liés au contenu. Donc ça va être l'encadrement en fait de toutes ces disciplines là liées à l'expérience utilisateur, enfin au contenu de l'expérience utilisateur. Et puis en fait tout un aspect aussi de stratégie, de planification. Comment est-ce qu'on s'aligne d'un point de vue stratégique avec les décisions de l'entreprise? Comment est-ce qu'on s'aligne sur les projets? Comment est-ce qu'on priorise les différents projets? Tu sais, on a toujours, enfin je dis tu sais, mais tu as la chance d'être chez Conto où on avait beaucoup d'UX writer, mais la plupart du temps, tu sais, on n'a pas énormément d'UX writer et on a énormément par contre de sujets et d'équipes. Nous on a une grosse dizaine de designers pour on est deux UX writers directs, donc il faut qu'on priorise aussi, il faut qu'on puisse faire le pont. Donc c'est très, c'est la plupart du temps mes missions, on va dire, d'encadrement et de positionnement.
Ok, ben on va en parler juste après. Et pour continuer un peu à poser le contexte, est-ce que tu peux juste nous dire comment chez PrestaShop sont structurées les équipes produits, design, content, juste pour savoir un petit peu toute cette orga.
Bien sûr. Alors, en fait, nous, on va avoir quatre grands pôles qui vont en fait structurer l'entreprise de manière générale. Et on a donc un pôle produit qui est assez central puisque du coup, on est quand même une entreprise qui est autour d'un logiciel. Donc, on a quand même une énorme équipe produit dans laquelle on va avoir un pôle design et dans le pôle design, on va avoir le pôle contenu. Donc en fait, on est un petit peu un système de poupée russe où c'est le contenu dans le design dans le produit. Voilà.
Ok, très clair. Et puisqu'on a un peu préparé l'épisode avant, j'ai quand même du contexte en plus. Donc, et notre conversation, elle est partie vraiment de là. En fait, tu m'as indiqué, notamment depuis ton arrivée chez PrestaShop, que tu travailles sur la place du contenu, son positionnement dans les équipes produits, design et aussi plus globalement dans l'entreprise. Et donc, tu travailles à restructurer cette place-là, on va dire. C'est venu de quel besoin et pourquoi il y a eu ce besoin-là de repositionner le contenu, en fait?
C'est la troisième entreprise dans laquelle je voyais qu'il y avait une place du contenu qui était un peu floue. En fait, où on savait que oui, il y avait un besoin contenu, on savait qu'il y avait des gens qui faisaient du contenu, même si on savait pas trop exactement qui faisait quoi. Ça, c'est toujours le truc un petit peu redondant où il y a des gens qui font du contenu, mais on sait pas exactement ce qu'ils font. Et la particularité de mon équipe, c'est que, en fait, donc, comme je t'ai dit au tout début, j'avais donc une UX writer, un technical writer et une content manager. Donc, ça veut dire trois métiers du contenu qui sont relativement différents, qui travaillaient sur trois supports différents et surtout qui travaillaient en collaboration avec trois autres équipes différentes. Puisque du coup, on avait l'UX Writer qui travaille forcément en collaboration avec les designers et les PM, majoritairement. On avait le Technical Writer qui travaille énormément en collaboration avec l'équipe support, care, et la Content Manager qui travaille énormément en collaboration avec notre partie open source, puisqu'on a un gros logiciel open source, et elle gérait tous les aspects de traduction. Et en fait, ça nous mettait vraiment au cœur d'énormément de collaboration, d'énormément d'équipes, tout en étant rattaché à l'équipe produit et surtout à l'équipe design. Et ça a créé, en fait, une incompréhension de la plupart des gens aussi, de exactement vous faites quoi, vous travaillez sur quoi. Et puis, on s'est rendu compte aussi, enfin, moi, très, très rapidement, je me suis aperçu que il y avait aussi beaucoup d'autres personnes au sein de PrestaShop qui créaient du contenu. Parce que il y avait des emails qui étaient envoyés, parce qu'il y avait le site internet qui était alimenté, parce qu'il y avait du contenu qui circulait sur les réseaux sociaux par exemple aussi. Mais tout ce contenu était créé sans qu'il y ait vraiment de chaîne de lecture, de relecture, de contribution. Et ce qui fait qu'en fait parfois nous, ça nous arrivait de travailler pendant plusieurs semaines sur un sujet et de voir une communication qui était partagée ensuite sur ce même sujet. Sans qu'on ait été consulté, alors qu'au final, on parle de la même chose, mais du coup, on n'a pas forcément parlé de la même chose de la même manière. Et donc, c'est un petit peu cette compréhension-là, cette analyse-là qui m'a amené à me dire qu'il y avait un besoin De tout mettre à plat et de se dire, OK, on a l'air d'être vraiment nombreux à bosser sur du contenu, on le fait pas tous de la même manière, on le fait pas tous pour les mêmes raisons, mais en fait, au bout d'un moment, on parle des mêmes choses, donc il va falloir qu'on s'aligne un petit peu, quoi.
Ouais, c'est sûr que le contenu, bon, déjà, c'est un terme global. Et est-ce que d'ailleurs tu parles que de contenu écrit ou vraiment aussi ça englobe le côté plus visuel en fait?
Ça peut l'englober. C'est vrai que le point de départ, ça a été principalement le contenu écrit. Moi, c'est vrai que dans ma pratique personnelle, c'est plutôt le contenu écrit. Après, bien sûr, ça fait aussi partie du métier, contenu visuel. Mais ça a moins été l'axe de départ.
D'accord. Mais moi, je vois tout à fait le bazar, pour ne pas dire bordel que ça peut être dans la plupart des entreprises. Et moi-même, je l'ai vu en étant chez Conto parce que certes, c'était très structuré dans chaque service, équipe, mais même si on essayait de travailler avec les équipes, marketing, CRM, support client, etc., je me suis encore rendu compte après coup en ayant quitté l'entreprise et en utilisant l'outil, chaque jour je me dis « Ah ouais, en fait, on envoie tout ça !» J'ai notamment au niveau des emails et quelques petites notifications, mais en tout cas en termes d'emails, ça peut vite devenir quand même beaucoup de communication, ça peut vite devenir énorme et j'imagine que ça doit être un travail de dingue en fait, de tout mapper en fait. Et je pense qu'on peut rentrer dans le détail. Déjà, comment tu as initié ce besoin de restructuration et est-ce que c'était une demande à la base de l'entreprise, de PrestaShop, ou c'est toi qui t'es dit « Ok, là, il faut tout remettre à plat, quoi. »
Non, pour le coup, c'était c'était pas une demande qui venait de l'entreprise, c'est moi qui exprimais le besoin parce que, comme je te dis, c'était la troisième fois que je voyais un schéma similaire et au bout d'un moment, je me suis dit, en fait, je peux pas recommencer dans une entreprise et refaire la même chose, vivre un peu la même chose que dans les autres entreprises où j'avais rien fait et où j'avais un peu subi le manque de clarté et ce genre de choses. Donc là, c'est moi qui me suis dit, il y a un moment, il faut qu'on fasse quelque chose et j'ai proposé et on m'a dit mais vas-y, sens-toi libre de le faire. Donc ça, je remercie énormément mes managers pour ça, d'avoir la liberté de mettre des choses en place, c'est une chance. Et du coup, c'est vrai qu'il y a eu un travail de mapping initial et je t'avoue que avant de faire un mapping du contenu, en fait, ça a été un mapping des personnes. Donc je suis parti vraiment, ça a été un peu une chasse au trésor. Mais c'est assez marrant parce qu'en plus on n'est pas si nombreux, tu vois, on est une entreprise d'à peu près 250-300 personnes. Mais ça a été très compliqué de trouver les personnes, justement parce que comme tu le disais, le contenu c'est vague. Et du coup en fait, juste demander sur le Slack qui crée du contenu, qui fait du contenu, qui travaille de près ou de loin sur du contenu. Mais en fait, comme les gens n'ont pas forcément la même définition de contenu, on ne sait pas. Est-ce que je suis concerné ou pas? Donc, la plupart du temps, les gens vont pas forcément répondre parce qu'ils n'ont pas envie de spam ou ce genre de choses. Donc, ça a pris quand même assez, pas longtemps, mais ça a pris facilement quelques semaines pour identifier des personnes clés, des personnes importantes par rapport au contenu. Et d'une fois que j'ai à peu près trouvé toutes les personnes concernées, même s'il y en a qui se sont révélées quelques semaines après, encore une fois, j'ai commencé par faire un premier point, mais vraiment très basique, tu sais, un meeting de retour aux sources, un peu de « Hey, on travaille dans la même entreprise, on travaille tous sur du contenu, venez, on fait un tour de table. » C'est vraiment, ça paraît très bateau et en fait, limite on n'y penserait pas parce que c'est simple et on se dit « Bah oui, mais en fait, on sait qui c'est. » Oui, on sait qui c'est, mais en fait, on s'est rendu compte que on n'avait pas forcément connaissance de tout le monde. On s'est rendu compte qu'on n'avait pas forcément connaissance de tous les types de contenus aussi qui étaient créés. Et voilà, en fait, juste le premier meeting, ça a été vraiment ce mapping des compétences, ce mapping des personnalités et des différents rôles aussi liés au contenu. Donc, ça a permis par extension d'identifier aussi les types de contenus qui étaient créés par ces personnes-là. Mais ça a été quand même assez marquant puisque du coup on était une quarantaine de personnes je crois dans la première réunion.
Okay.
Donc ce qui est pas négligeable.
Ouais, clairement. Mais on sous-estime vraiment cette juste d'organiser un atelier juste pour apprendre à se connaître parce que de un on a une meilleure compréhension des expertises des uns et des autres. Et de deux, en fait, le fait de faire connaissance, tu vois, ça détend un peu le truc. Après, on communique beaucoup plus facilement entre nous. Et c'est vrai que je le mets pas assez souvent en place, mais je devrais le faire systématiquement, surtout en étant freelance, bah, je jongle entre différentes équipes. Mais ouais, on sous-estime carrément cette connaissance-là des uns et des autres. Et du coup, là, pendant cette réunion un peu, donc vous avez fait connaissance, vous avez fait quoi d'autre? Je suppose aussi que tu as exposé la démarche.
Ouais, complètement. L'idée, c'était vraiment de faire un peu table rase de tout ce qui avait été vécu bah, de leur côté, puisque c'est des personnes la plupart du temps qui étaient là depuis plusieurs années. Et en fait, ça s'est fait aussi beaucoup par des rencontres à la machine à café, par des échanges complètement informels, mais où à partir du moment où j'avais identifié certaines personnes, ben, on pouvait en discuter un petit peu plus, de partager cette idée de ben voilà, j'aimerais créer des liens, j'aimerais qu'on puisse travailler un peu plus ensemble, j'aimerais que ça puisse être plus fluide aussi entre nos sujets, ce genre de choses. Et j'ai vu en fait que le fait de simplement d'en parler de manière informelle entre deux cafés, ça permettait aussi de débloquer beaucoup et ça suscitait aussi beaucoup d'entrain. Et donc lors de ce premier point, on a vraiment repris les bases. J'ai partagé, j'avais la chance d'avoir la lead agile aussi avec moi ce jour-là, au cas où, pour pouvoir faciliter la réunion. Et du coup, j'ai exposé la démarche qui était en fait à terme d'arriver à avoir un process content qui soit clair pour tout le monde, qui soit relativement unifié, puisque l'objectif vraiment dans tout ça, c'était à terme d'arriver à mettre en place un contenu qui soit unifié dans nos communications et qu'on puisse en fait avoir une stratégie globale qui permettent d'avoir une expérience du contenu de A à Z. Donc vraiment, l'idée que je leur ai exposée, c'était ben, peu importe que vous soyez du marketing, que vous soyez du care, que vous soyez du produit ou n'importe quelle autre partie du parcours, l'idée, c'est que notre utilisateur, il va être exposé à du contenu et ce contenu fait partie de son expérience parce que l'expérience du contenu n'est pas juste dans le produit. Et l'idée, c'est que ben, on est tous là, on est tous des participants de cette expérience. Et on peut ensemble s'aligner pour créer quelque chose d'unifié, de cohérent et d'engageant pour l'utilisateur.
Mmh. Ouais, tu parles d'expérience du contenu et par extension d'expérience utilisateur, en fait, vraiment de, on va dire de A à Z, même si bon, le A, on sait à peu près où ça commence, on passe déjà par les prospects. Le Z, où est-ce que ça finit? Ça finit jamais vraiment. Mais ouais, vraiment, c'est d'avoir cette expérience utilisateur de A à Z qui est hyper intéressante. Déjà, c'est vrai que quand on parle contenu et UX writing, on se dit dans le produit. Donc déjà, si on arrive à inclure les emails et les notifications, c'est déjà pas mal. Mais alors là, se lancer, ouais, c'est un vrai défi que d'avoir cette expérience du contenu très, très large. Et du coup, suite à ce premier point, ce premier atelier, qu'est-ce que tu as pu mettre en place par la suite? Est-ce que tu avais déjà une vision, un peu une roadmap dessinée pour repositionner la place du contenu?
Alors, j'avais une roadmap et puis il y a toujours cet écart entre ce qu'on a en tête et ce qui se passe dans le réel. Ça me fait beaucoup rire à chaque fois. Mais j'avais cette idée justement de pouvoir avoir ce premier atelier qui nous mènerait à un deuxième atelier, qui nous mènerait à un troisième atelier et qui soit très progressif, qui nous permette de mapper le contenu progressivement et ensuite d'arriver à une sorte de stratégie éditoriale complète au niveau de l'entreprise. Je pense que c'est totalement... Alors, c'est pas irréalisable, mais je pense que ça demande un niveau de maturité d'entreprise et de contenu qui est assez élevé pour réussir à établir une stratégie éditoriale complète. Mais la réalité, c'est que après cet atelier, déjà, il y a eu beaucoup plus de conscientisation du contenu. Donc ça, déjà, c'est un point qui est hyper important. Tu sais, on a tous, en tant que UX writer, cette responsabilité d'évangélisation du contenu. Et malgré tout, ce premier point a sensibilisé énormément les personnes du contenu au contenu. Donc ça, c'est très bien, puisque du coup, ça leur a donné aussi un petit peu cette responsabilité de bah, vous travaillez sur du contenu. Est-ce que vous êtes sûr que toutes les personnes qui peuvent être touchées, qui peuvent être concernées, ont eu un regard, ont eu enfin vous ont fait des retours ou des contributions. Et puis ça a donné aussi de la visibilité beaucoup plus à l'entreprise de manière générale, puisque forcément quand il y a 40 personnes qui se rassemblent et qui commencent à faire des choses ensemble, bah ça se ressent, ça fait un petit peu de bruit, ça fait un petit peu ça gêne un petit peu aussi, puisque ça casse un petit peu les process actuels. Mais la réalité, c'est que on a commencé, nous, dans l'équipe User Content, à travailler beaucoup plus avec certaines autres équipes. Donc ça, c'était assez intéressant. Ça a facilité énormément les échanges de manière naturelle. On a beaucoup plus de projets qui nous ont été communiqués de la part du marketing notamment, où il y avait des créations de landing page, où il y avait des créations de parcours sur le site qui amenaient aux produits pour lesquels on était contactés. Ça a amené aussi la brand à nous contacter beaucoup plus pour des questions de site internet, de refonte, d'organisation du contenu. Donc vraiment, c'est un petit peu comme s'il y avait des pierres qui s'étaient superposées les unes à la suite des autres, de manière très progressive, parce que nous aussi, ensuite, au niveau de l'équipe contenu, on a dû un peu reprioriser les sujets avec lesquels, enfin, sur lesquels on travaillait, et ce qui a fait qu'on a ralenti un petit peu cette gestion, en fait, de la réorganisation, de la restructuration de la place du contenu à ce moment-là, quoi.
Mmh. Ouais, il y a toujours le run quand même, la prod qui est toujours là. Et c'est vrai qu'à la base, ce n'était pas forcément ton job de tout remettre à plat, mais c'est quand même un gros travail. Aujourd'hui, en fait, vous en êtes où? Où tu en es où sur cette restructuration?
Alors aujourd'hui, donc là, on avait fait cette énorme réunion. Suite à cette réunion, on a fait un peu un mapping du contenu. Donc ça déjà, savoir vraiment quel contenu était créé par qui, ce qui est quand même assez... assez important puisqu'on se rend pas compte de tout ce qui peut être créé. En fin d'année dernière, j'ai créé un peu une sorte de vision de l'équilibre parfait entre les différentes créateurs, entre les différentes personnes créateurs de contenu. Et là, l'idée aujourd'hui, en fait, c'est d'être un peu plus dans cette démarche d'évangélisation, responsabilisation, parce qu'encore une fois, aujourd'hui, donc on est deux avec Julie dans mon équipe UX Writing, et on a ce besoin de run, mais on a aussi en même temps ce besoin de structuration, parce que comme on est moins nombreux qu'à l'origine, on a quand même besoin d'avoir des structures qui nous facilite la vie, en fait. On a besoin de mettre en place des choses qui nous facilitent la vie. Donc là, l'idée, ça va être vraiment de mettre en place beaucoup de responsabilisation et d'outils pour que les autres personnes qui créent du contenu puissent le faire en autonomie. Donc là, ce qu'on est en train de mettre en place, c'est un petit peu des genres de mini-formations en interne. Là, on est beaucoup dans les échanges avec les product managers, puisque ça fait quand même... un peu plus d'un an et demi maintenant qu'on travaille en collaboration avec les product managers, mais on se rend compte qu'il y a encore des incompréhensions sur les process, il y a encore des incompréhensions sur qui est responsable de quelle partie. Donc là, l'idée, ça va être, par exemple, de former un peu nos product managers au contenu pour les faire un peu devenir nos champions en interne, de sorte à ce qu'ils soient avec les product designers à même de nous dire quand est-ce qu'ils ont besoin de notre intervention et sur quels éléments. On va faire la même chose côté marketing, mais sur un aspect plus copywriting, où là, l'idée, c'est de les accompagner plus à la rédaction, déjà à une rédaction qui est efficace pour eux, leurs objectifs et leurs besoins, et en même temps avec une couche du X-Writing qui soit alignée avec nous ce qu'on écrit au sein du produit, et on est en train de créer beaucoup plus de rapprochement aussi avec notre équipe brand pour s'assurer d'avoir un alignement aussi qui soit assez large. Donc là, vraiment, on est un peu dans cette idée de on avait tout plein de petites îles, on a essayé de mettre les îles sur un même endroit, là on s'est rendu compte que c'était plus compliqué que prévu, donc simplement ce qu'on fait, c'est on crée des petits ponts entre chaque île et on raccroche ça comme ça, et on essaie de faciliter les échanges, on essaie de communiquer beaucoup plus aussi. C'est pas facile d'avoir de la communication dans des équipes qui sont pour certaines assez grandes, puisqu'on a des équipes marketing ou brand qui sont assez grandes. Et pour autant, le fait de se tenir au courant assez régulièrement, ben, ça change énormément de choses, quoi.
Ouais, clairement. Et je reviens juste sur la formation auprès des product managers. En fait, elle consiste en quoi exactement ?
Eh ben, c'est une très bonne question. C'est quelque chose que je suis en train de créer. L'idée, c'est déjà de leur faire comprendre que le contenu est varié, puisque là, c'est vraiment quelque chose... C'est issu d'un projet en fait sur lequel j'ai travaillé en parfaite collaboration avec une product manager, où je me suis rendu compte on s'est rendu compte ensemble de un peu des différentes lacunes autour du contenu. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'avoir ce partage d'informations sur tous les types de contenus qui peuvent être intégrés à un projet. Quand on a un projet de A à Z qui est mené par le produit, ben, on peut avoir du contenu qui est du contenu marketing, on peut avoir du contenu qui est du contenu produit, on peut avoir du contenu qui est du contenu support, on peut avoir de la traduction. Enfin, voilà, en fait, toutes les étapes du contenu et les spécificités du contenu au sein d'un process complet. Parce qu'aujourd'hui, en fait, aujourd'hui, c'était pas forcément clair, et je me rends compte que, enfin, on s'est rendu compte que la plupart du temps, oui, il y avait un besoin, en fait, il y avait une identification du besoin de contenu quand la maquette était faite, parce qu'on voit que il y a un besoin wording, tu sais, ce classique, on a un besoin wording, sauf que au-delà du besoin wording, ça veut dire qu'il n'identifiait simplement qu'un besoin contenu au sein de la maquette. Et donc là, vraiment, l'idée, c'est de montrer que ben, en fait le contenu peut aller aussi au-delà de la maquette et que ça peut aussi concerner le produit parce que on peut avoir un impact dans les emails transactionnels, on peut avoir un impact dans les communications sur le site internet. Enfin voilà, c'est plus une sensibilisation de ce côté-là, et puis ensuite trouver vraiment le bon moment, comment savoir quand contacter un UX writer, pour quelle raison contacter un UX writer, le temps que ça peut prendre aussi. Ce genre de choses.
Et du coup, ok, t'as parlé marketing, brand, produit, et côté designer, comment vous travaillez avec eux, comment ils peuvent être accompagnés?
Alors aujourd'hui, côté designer, on a une méthodologie qui est mise en place depuis un peu plus d'un an maintenant, depuis un an, qui s'appelle la méthode de Focused, en fait, qui est un peu une extension du double diamant, qui avait été structurée par Tristan Charvilla et Rémi Guyot. Et qui est assez intéressante puisque c'est une méthode qui va découper les différentes étapes du suivi de projet design entre la discovery, enfin sur la partie discovery, pour amener ensuite à la création. Et dans ces étapes, en fait, nous, on a essayé de structurer les moments où le contenu pouvait être contacté. Donc, si tu veux, on a des étapes exploratoires initiales qui sont assez clair pour les designers, puisque c'est la méthodologie qu'ils doivent utiliser sur la majorité de leurs projets. Donc, on est parti du principe que, par définition, à telle étape, ils devaient nous contacter et on fait un assessment à ce moment-là ensemble. La réalité, c'est que c'est pas forcément le cas, puisque, comme à chaque fois, il y a le réel qui vient et on se rend compte que, bah, il y a ce truc de, bah oui, mais là, du coup, c'est juste une seule phrase qui est dans la maquette, du coup, je me suis dit que c'était pas très grave. Enfin, voilà, ce genre de réflexions qui viennent assez rapidement. Globalement, les designers sont assez alertes sur la question du contenu. On les sensibilise toujours. Hein, c'est pas quelque chose qu'on arrête. Je pense que à peu près une fois par mois, on fait une communication, on fait un point complet sur le contenu. Après, malgré tout, on est très très intégré hein, dans l'équipe. Enfin, on est dans l'équipe design vraiment. La seule chose, c'est qu'on est deux par rapport à une dizaine de designers. On n'a pas forcément la possibilité d'être plus visible que ce qu'on est aujourd'hui, mais ils sont assez alertes sur le fait de nous contacter. Le seul problème aujourd'hui, c'est parfois de comprendre quand nous contacter, mais on essaye de mettre ça en place, notamment avec une technique d'identification du besoin content, qui est alors c'est quelque chose qui est pas encore formalisé, que je suis en train d'essayer de formaliser. Je sais pas si tu avais lu The Business of UX Writing.
Non, je l'ai pas lu. Ça me parle.
Je crois que c'est de. Ouais, c'est ça. C'est Yael Ben David, The Business of UX Writing.
Ah oui, d'accord. Ouais, de ces éditions-là. Ouais.
Ouais. Et en fait, dedans, à un moment, elle parle en fait du scope de l'UX. Enfin, elle parle de cette idée des trois S en fait. Est-ce que c'est un problème de scope? Est-ce que c'est un problème de structure? Ou est-ce que c'est un problème de sémantique, je crois. Je sais plus quel est le troisième S. Mais en fait, c'est assez intéressant puisque ça permet justement d'identifier, tu vois, les besoins de contenu. Est-ce que c'est un besoin de surface? Est-ce que c'est un besoin en profondeur? Et du coup, ça permet aussi de jauger. Et donc, on essaye de mettre ça en place là pour donner aux designers les éléments de compréhension de est-ce que c'est quelque chose qui va prendre du temps pour le contenu ou pas. Il y a toujours cette question de temps.
Ah bah, je vais ajouter ce livre à ma liste de lecture. Ça a l'air hyper intéressant. Et c'est intéressant, ne serait-ce que le titre, là, Business, c'est ça, Business of UX Writing, c'est ça?
Ouais.
Ouais, hyper intéressant. Et J'avais une question en tête pour rattacher ces petites îles et du coup les équipes autour du contenu. On pense forcément à la cohérence et du coup à une approche système et à des guidelines. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a un tone of voice et il y a des premières guidelines qui sont mises en place?
Alors oui, en fait, on a eu un rebranding l'année dernière au niveau général de l'entreprise. Donc l'équipe brand avait structuré un brand book avec les guidelines classiques et la charte éditoriale. À partir de cette charte éditoriale, Julie, avec qui je travaille, avait structuré un tone of voice, qu'on a adapté sur un aspect produit. Comment est-ce qu'on matérialise le tone of voice de la brand au sein du produit? Et c'est quelque chose là qu'on aimerait aussi faire à partir de cette année. En fait, l'idée, c'est d'avoir ces guidelines génériques brand et de pouvoir comprendre comment elles s'appliquent après à chaque département. Puisque forcément, chaque département va avoir ses objectifs, va avoir ses besoins et a aussi, en fait, ses canaux de communication avec des objectifs d'engagement, d'acquisition et autres. Et l'idée, c'est de voir vraiment comment est-ce qu'on peut créer une tonalité qui soit propre à chaque département et qui garde la cohérence de la voix de la marque. C'est vraiment ça qu'on essaye de mettre en place. Alors, c'est un chantier qu'on n'a pas encore commencé, à part côté produit, mais qui peut être assez intéressant parce que ça peut permettre vraiment de garder, comme tu dis, cette cohérence globale où on a la voix de l'entreprise et puis ensuite, on a les différents éléments propres à chaque département côté... Et même pour sortir en fait de l'entreprise, on a les différents éléments après qui sont propres à chaque moment de l'expérience. On a comment est-ce qu'on parle dans la partie support, comment est-ce qu'on parle dans les communications marketing, dans les emails, ce genre de choses.
C'est vrai que, enfin moi je le rencontre souvent, surtout quand je donne des formations. S'il y a cette anxiété, ce petit stress à dire mais on n'arrive pas à refléter la voix de la marque dans le produit ou à tel endroit, mais en fait ce qu'il faut essayer d'intégrer, c'est que c'est le ton plus que la voix, et la voix elle varie en fait selon les différents points de contact, et quand je transmets ce message là il y a un certain soulagement c'est dire ok, d'accord, et on travaille justement sur le ton qui est beaucoup plus important que la voix, et notamment côté produit en fait. Ouais. Et j'avais une réflexion qui me venait en tête. J'aime beaucoup m'intéresser en ce moment sur l'avenir, le futur de l'UX writing, tu vois. Et je me disais, UX, et c'est ça qui m'intéresse par rapport au terme content design, mais qui est aussi intéressant. Enfin, il y a toujours ce débat entre les deux termes. Mais en tout cas, il y a ce côté user experience qui est hyper intéressant. Et au final, je me dis, et moi la première, quand je dis à mes clients, non mais moi je fais que du produit, et je me dis, en fait non, l'expérience utilisateur, c'est vraiment ce qu'on disait tout à l'heure, de A à Z, et au final, est-ce que ce serait pas un petit peu ça, ce côté avenir de l'UX Writing, c'est de structurer tout ce contenu, de rattacher toutes les petites îles comme tu le mentionnais. Je trouve ça intéressant, cette perspective.
C'est assez vaste comme sujet. C'est vrai que je me pose beaucoup la question aussi, parce qu'en plus, comme je te disais, j'ai pas forcément pris mes racines dans le design ou dans l'UX à part entière. Et du coup, j'avais forcément cette expérience de base plus côté marketing ou plus dans les process de traduction, dans le contenu vraiment au sens large. Et donc, par nature, c'est vrai que j'ai du mal à me cantonner uniquement à mon périmètre produit, parce qu'en fait j'ai en tête les différentes incidences. Je sais que si j'écris ça là, ça va avoir un impact dans l'email qui sera envoyé, ou ça va avoir un impact dans la landing page qui sera créée, et inversement. Et je pense qu'il y a un petit côté perfectionniste aussi, où tu sais, on se dit on a cette responsabilité de l'expérience. Oui, mais ton expérience, par définition, c'est pas juste quand tu utilises le produit. Donc, moi, c'est un peu un excès de zèle. Hein. Sincèrement, je pense que c'est vraiment un excès de zèle où on se dit, oui, mais toi, ton périmètre, c'est le produit. Oui, mais mon périmètre, c'est l'expérience. Et l'expérience de contenu. Et je pense que c'est quelque chose aussi qui évolue depuis les dernières années, où on est beaucoup plus dans une démarche relationnelle. Tu vois, en plus, là, un terme qui revient à la mode, qui est le conversational design. Et on a ce côté très très relationnel dans les entreprises, dans les marques, depuis je pense une dizaine, quinzaine d'années, peut-être un tout petit peu plus, mais Mais là, aujourd'hui, l'aspect différenciant des entreprises, c'est quelle relation est-ce qu'on va créer avec les utilisateurs. C'est cette histoire de storytelling toujours, hein. C'est quelle histoire est-ce qu'on raconte, quelle est l'histoire de notre produit, quelle est l'histoire de la marque, et surtout quelle histoire est-ce qu'on est en train de créer avec notre, avec nos utilisateurs, avec nos consommateurs. Et je trouve qu'il y a cet aspect-là qui est très présent dans l'expérience et dans l'expérience du contenu. C'est que aujourd'hui, on cherche à avoir un contenu qui est conversationnel, on cherche à avoir un contenu qui est humain, à avoir un contenu qui est assez, enfin, qui est assez fluide, et surtout, du coup, un contenu qui est émotionnel, en fait. On cherche à avoir un contenu qui est expérientiel. Et pour moi, du coup, ça veut dire qu'on cherche à créer une relation à travers le contenu, à travers le langage, et ça peut pas se faire juste à un certain moment du parcours, tu vois. C'est pas viable. C'est comme si on allait dans un hôtel 5 étoiles, et ton expérience, elle commence qu'à partir du moment où tu ouvres la porte de ta chambre. Ben non, ce qui compte, c'est le moment où tu passes la porte de l'hôtel, et après, t'as tout le reste qui arrive. Et pour moi, c'est un peu cette idée-là aussi.
Et puis, c'est là où on se rend compte que les boîtes qui marchent, en tout cas, le mieux, un peu les celles qu'on connaît, Apple ou Google, ou etc., sont vraiment très focus sur le côté ouais, expérientiel et voire émotionnel. Et du coup, aujourd'hui, c'est quoi un petit peu les chantiers pour 2024, si on devait résumer ce qu'on s'est dit?
Alors, pour résumer les chantiers 2024, du coup, il y a cet aspect un petit peu de micro-formation en interne sur, du coup, au sein des équipes marketing, au sein des équipes produits, côté product manager principalement. Pas mal de création d'outils aussi pour travailler en autonomie, en fait, qui facilite... c'est le fait de se dire on a des frameworks communs, donc ça facilite aussi les échanges, ça facilite le fait de travailler sur une base commune, et puis je pense un gros travail de structuration de guidelines qui soit propre à chaque département, mais qui permettent de garder cette cohérence globale. Je pense que ce sera les plus gros. Après, il y a un aspect qui est moins lié, enfin en fait si, c'est quand même lié au content ops, mais dans un aspect moins structure du contenu, ça va être plus sur l'aspect data. Ça, c'est quelque chose que je veux pouvoir mettre en place cette année. C'est un suivi un petit peu de nos données, une mesure de nos données, une mesure de notre contenu. Est-ce qu'on a un contenu qui est efficient? Est-ce qu'on a un contenu qui remplit son rôle? Et pouvoir garder en fait une trace de ces données-là.
Mais on devrait peut-être mettre en place un petit... des petits ateliers entre UX writer, content designer, parce que j'ai l'impression que c'est vraiment un enjeu en 2024. Enfin, c'est ce que j'entends le plus souvent, de définir des indicateurs pour le contenu et pour son impact.
Mais je pense que tu sais, il y a une progression relativement logique dans le métier là, parce que enfin en fait ça fait une petite, enfin pas 10 ans, mais un petit peu moins de 10 ans qu'on est plus ou moins installé en France. Ça fait vraiment 5 ans que ça s'est assis, en tout cas pour nous, même si toutes les entreprises ne savent pas encore ce qu'on fait. Mais tu vois, il y a cette progression où on a déblayé un petit peu l'aspect de « Ok, qu'est-ce que c'est exactement ce qu'on fait? Comment on le fait ?» On a tous les mêmes bases, les mêmes fondations. Et progressivement, on arrive à un moment aussi de spécialisation. Je vois de plus en plus du X-Writer qui se spécialise dans certains aspects. C'est très cool. Et puis là, on arrive aussi à un moment où on se dit, ok, maintenant on l'a fait, on l'a mis en place. Maintenant, on veut aussi une chaise à la table, qui soit aussi assez solide. Et donc, on veut ramener de la donnée. On veut ramener quelque chose de mesurable, quelque chose de vérifiable et qui nous permette aussi en fait d'avoir des leviers, quoi.
Clairement, ça donne des petites idées là d'événements à créer aussi, tu vois.
Ça peut être une très bonne idée.
On arrive bientôt à la fin de l'épisode. J'avais une question pour toi. Quel conseil tu donnerais à une entreprise, à des équipes qui voudraient structurer le contenu?
Alors, c'est une très bonne question. Alors, une entreprise qui voudrait structurer le contenu, en faisant appel à quelqu'un d'externe ou en le faisant naturel, enfin eux en interne?
Les deux, hein, éventuellement, s'il y a une personne en interne qui est recrutée ou alors un externe. Déjà, par où commencer
Par où commencer, je pense que vraiment, c'est le plus important. Si on veut structurer le contenu, déjà, c'est comprendre pourquoi Est-ce que c'est parce qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui fonctionne pas? Est-ce que ça a un impact négatif? Parfois, on peut vouloir structurer le contenu parce qu'on a envie d'y voir plus clair, mais en soi, il n'y a pas forcément d'impact négatif, même si, bon, ça me paraît peu probable, mais il n'y a pas forcément d'impact qui met l'entreprise en risque. Donc, je pense que le premier, c'est identifier quel problème est-ce que ça pose aujourd'hui, pour ensuite se dire, OK, on peut le prioriser, et si on priorise la structuration du contenu, commencer par une identification des personnes. Et identifier les personnes, ça amènera les métiers et ça amènera les contenus. Mais toujours penser aux personnes avant de penser au contenu. Et ensuite, accepter le fait que ça va faire changer les choses dans la mesure où ça va avoir un impact, en fait, au sein de la structure de l'entreprise. Ça va forcément se ressentir. Ça va parfois déranger. Ça va parfois être bien reçu. Mais c'est quelque chose qui a forcément un impact parce qu'on change des structures qui sont cristallisées naturellement. Donc ça fait un peu l'effet d'un tremblement de terre.
On adore. Et c'est vrai que t'as clairement cet aspect qui est quand même énorme de conduite du changement, en fait. Clairement, et réussir à faire bouger les lignes. Est-ce que tu as des ressources ou des outils à partager? On a parlé déjà du livre Business of UX Writing, mais est-ce que tu penses à d'autres choses qui sont liées à tout ce qu'on s'est dit?
Alors, j'ai pas de référence en tête exactement, parce que je les ai plus en mémoire. Je sais qu'au moment où j'ai commencé à réfléchir à cette question, je me suis beaucoup posé sur du design ops, forcément, de manière générale, parce que ça reste quand même très inspiré. Donc, j'ai un petit peu lu tout ce que je pouvais lire sur le design ops à ce moment-là, mais sur un aspect contenu. Non, j'avoue que j'ai regardé aussi pas mal des conférences ou des tables rondes buttons qui étaient partagées sur la mesure de la donnée ou ce genre de choses. Mais c'est vrai que aujourd'hui, malheureusement, des livres sur le content ops, il n'y en a pas encore. Qui sait, peut-être que ce sera la prochaine étape.
Ouais, je pense que ce serait intéressant d'avoir un livre là-dessus, et je pense qu'il y en a plusieurs qui sont sur les mêmes sujets que toi en francophonie, donc ça peut être intéressant. Mais en tout cas, je mettrai le lien de la conférence que tu as donnée au Flupa, c'est Flupa Days, ouais, c'est ça, qui était hyper intéressante, le livre, et puis si tu as d'autres ressources auxquelles tu penses, je les listerai dans la description de l'épisode. Est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé et que tu aurais aimé qu'on aborde ou pas?
Alors, j'ai en tête un aspect qu'on avait abordé, qui était la distinction entre content design ops et content ops. Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu veux reprendre ou
Si,
pas.
clairement, on peut faire le lien. Donc, selon toi, c'est quoi un peu la distinction? Il y a encore des sujets là-dessus qui sont intéressants.
Pour moi, la distinction entre content design ops et content ops, c'est plutôt une question de position au sein de l'organisation d'entreprise, parce qu'on a cet aspect de content design qui cherche encore à se faire une place dans beaucoup d'entreprises, et même les entreprises où on est présent, on essaye de vraiment rester là et d'avoir une place fixe. C'est pas toujours évident. Donc, je pense que vraiment le content design ops, c'est cet aspect de collaboration, de structuration, de comment est-ce que le content design travaille en direct avec les personnes concernées, hein, avec les personnes du produit, avec les personnes du care, donc vraiment sur un aspect de proximité. Là où je pense que c'est peut-être vraiment juste comment dire, une interprétation de ma part, mais là où je pense que le content ops de manière générale, c'est comment est-ce qu'on va structurer l'entreprise de sorte à ce que le contenu soit aligné et uniforme. Parce qu'aujourd'hui, tu vois, on a vraiment cette idée de contenu qui est un peu éparpillé à droite à gauche, parce qu'on a du contenu dans le care, dans le marketing, dans le support, dans plein d'endroits différents. Et on n'a pas forcément d'aspect unifiant de toute cette transversalité. Parce que par définition, tout le contenu est toujours transverse. Mais si on veut un contenu transverse qui soit vecteur d'une expérience relationnelle, eh bien, on a besoin d'avoir aussi un peu un cocon unificateur de tout ça, et je pense que c'est là où le content ops intervient.
Clairement. Bah écoute, c'est hyper, hyper intéressant. Et de toute façon, là, tous les échanges qu'on a eus, c'est hyper intéressant. Moi, on enregistre à 10h, 10h passées, et ça me motive pour la journée et ça me donne plein d'idées. Bah écoute, je te souhaite de pouvoir mettre en place tout ça, de continuer sur ta lancée en 2024. Et je serais curieuse de savoir un peu en fin d'année où est-ce que ça en est. Mais c'est un sujet qui est encore relativement nouveau et où il y a peu de ressources, mais on compte sur toi et aussi sur Camille Proméra, avec qui j'ai enregistré aussi sur le sujet Content Ops, qui est un peu dans les mêmes sujets, pour lancer ça et pourquoi pas faire un livre, tu vois.
Pourquoi pas.
Écoute, merci beaucoup, et puis si on a d'autres ressources, on mettra dans la description.
Ça marche, je regarde, si jamais je trouve d'autres ressources, je t'enverrai ça. Merci beaucoup, Apolline.
Un grand merci pour votre écoute. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à le partager. N'hésitez pas non plus à noter le podcast et à vous abonner pour ne rater aucun épisode. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de podcast. À bientôt.